Ce matin, je voudrais toucher ce fardeau. Mais peut-être que avant de faire ça, Sonis, tu avais une question qu'elle voulait poser hier, mais à cause du temps. Donc tu peux aller, n'est-ce pas, si vous voulez. Voilà.
Bon, ce n'est pas seulement les jeunes,
les enfants.
Les adolescents.
Oui.
C'est pas si, bon, quand vous parlez de s'occuper de tout ça, il faut les mettre dans la même catégorie. Peut-être les enfants, je dirais, de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Mm-hmm.
Et puis les adolescents, jusqu'à la 4e.
Uh-huh.
Est-ce qu'il faut les mettre ensemble? Si on veut s'occuper d'eux.
Oui, oui.
Voilà. Et comment aussi, voilà, gérer les adolescents.
Ah.
Voilà.
D'accord. Ok. Donc ça, c'est le fardeau aujourd'hui. Oui, 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 oui. Donc ça va être un peu pratique aussi. Je vais vous partager selon mon expérience comment les jeunes, comment moi j'ai été avec les jeunes. Et aussi j'ai 3 enfants moi-même, n'est-ce pas? Donc c'est toujours c'est facile de dire aux gens quoi faire. C'est facile, mais accompagner quelqu'un n'est pas facile. Donc c'est facile de prêcher, c'est facile de donner des messages, mais c'est beaucoup plus difficile de vivre avec quelqu'un et même de croître avec quelqu'un. Donc ça, c'est un peu le fardeau aujourd'hui, et même avant, depuis ces derniers jours, accompagner les nouveaux, accompagner les frères et les sœurs, parce que sans cela, nous pouvons croire que tout va bien à l'extérieur. On vient à la réunion, n'est-ce pas? Souvent, on juge, on base notre jugement, notre perception de la vie de l'Église, du niveau de la vie de l'Église, selon la présence des frères et sœurs dans les réunions. Oh, il vient à la réunion. Et on pense que tout va bien, n'est-ce pas? Il est là. Mais est-ce que sa manière de vivre correspond à sa présence dans les réunions? Est-ce que sa manière de vivre témoigne de Christ? Et si nous ne faisons pas attention à ça, il y aura un manque dans la vie de l'Église. Il y aura un mélange. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le mélange parmi le peuple de Dieu. Pas seulement parmi les jeunes, mais même parmi nous, n'est-ce pas? Si nous, en tant qu'adultes, nous ne donnons pas un exemple, nous ne sommes pas un exemple, notre vie n'est pas un modèle, comment est-ce que les jeunes vont suivre le Seigneur? Donc, on s'étonne, n'est-ce pas? On s'étonne de ce qu'une personne, un frère, peut être sauvé depuis longtemps, et même il vient à la réunion, mais dans sa vie privée, il couche avec des filles, n'est-ce pas? Mais il vient à la réunion, et même il partage le pain et la coupe. Et on ne le sait pas, ou même si on le sait, on ne sait pas quoi faire, n'est-ce pas? Mais on est content quand même qu'ils viennent à la réunion. mais sa vie privée est quelque chose de tout à fait différent. Ah. Et donc, ça c'est quelque chose qu'il faut toucher, il faut que j'ai touché même au Togo, parce que la vie française est cette sorte de vie. Ah. Je dis, trois choses, ah. La nourriture, ah. L'alcool et les femmes, n'est-ce pas? Voilà, et on s'en vante, on s'en vante. Ben, honnêtement, la culture française, quand moi j'apprenais le français, la première leçon, je veux dire, parce que c'était la méthode audiovisuelle, n'est-ce pas? Donc il y avait une présentation, n'est-ce pas? Là, il fallait écouter, n'est-ce pas, les dialogues et puis répéter. Écouter et répéter. Voilà. Et il s'agissait d'un jeune homme, n'est-ce pas, qui venait de perdre son travail et qui se promenait dans la rue et il a rencontré une jeune fille. Bon, ça. Donc, ça c'était innocent, ok, c'est, n'est-ce pas? Et puis l'histoire s'est développée, n'est-ce pas? Et comment ils se sont rencontrés, ils sont sortis ensemble, etc., n'est-ce pas? Donc, bien des années plus tard, quand moi j'enseignais le français, il y avait une autre présentation, une autre, toujours la même méthode audiovisuelle. Mais là, plus, je dirais, moins innocent. Là où on montrait des jeunes, enfin un jeune, n'est-ce pas, un dragueur, quelqu'un qui draguait. Et on présentait, on voyait, montrait comment il le faisait. Comment il faisait quelque chose pour attirer l'attention de la fille, n'est-ce pas, à l'école, à l'université. Et tiens, voilà. Bon, rien d'obscène, n'est-ce pas, non. Mais, et il fallait écouter et répéter. Voilà. Non, c'était... Voilà, tout était correct. Mais vous voyez, derrière ça, la pensée, la manière de penser, la manière de vivre, c'est quelque chose de normal. Donc, la vie, la culture française s'apprête à ce genre de vie. C'est vraiment... Ça va. Il faut aimer la vie, n'est-ce pas? Amusez-vous, jouissez de la vie. Et les jeunes grandissent avec cette philosophie. Quand ils viennent à la vie de l'Église, ils apportent cette même philosophie, cette même manière de vivre. Et ils ont le Seigneur. Mais ils ont aussi ça. Et ils ne voient même pas la différence. C'est-à-dire qu'ils peuvent très très bien exister, n'est-ce pas, vivre leur manière de vivre et louer le Seigneur. Vous voyez? Incroyable. Et rien de mal. Et ils sont contents, n'est-ce pas? Après les réunions, après la réunion, ils vont s'arrêter à la barre pour boire quelques coups et quelques verres. Ça veut dire que, n'est-ce pas, nous, on n'a pas fait, on n'a pas fait notre nous avons une responsabilité, n'est-ce pas, de nous occuper de nos jeunes pour que la vie chrétienne ne soit pas un jeu. Parce que ça devient un jeu. Ils viennent jouer. Jouer les réunions. Jouer le Seigneur. N'est-ce pas? Et après que le jeu est fini, ils rentrent et ils jouent leur propre jeu. Parce que toute la vie est un jeu. Y compris les réunions. Y compris les choses du Seigneur. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour accabler les jeunes, c'est pas pour les frapper ou les cogner, hein, mais c'est pour les aimer et c'est pour nous occuper d'eux. Voilà. Donc, il y a des versets que nous allons lire, ok? Et ça, c'est le message 8 qui est très pertinent. Donc, 2 Rois, chapitre 17. À partir du verset 24 au verset 33. Ça, c'est concernant les Samaritains, concernant quand les Assyriens ont envahi le royaume du nord d'Israël, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, 2 Rois, chapitre 17, du verset 24 jusqu'au verset 33. Voilà, donc on peut lire chacun un verset.
2 Rois 17, verset 24. Et le roi d'Assyrie, des hommes des Israélites, et des Tous, et d'Amar, et des Amab, et des Sephamaïm, et des filles habitées dans les villes de la Samarie, à la place des fils d'Israël.
Amen.
Lorsqu'il commençait à y habiter, il ne craignait pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions et des tuaient. Verset 26. Il en parla au roi d'Assyrie. Les nations que tu as transportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume du Dieu. Et il a envoyé contre eux. Et voici, des lions les fesses de son Dieu, parce qu'elles ne connaissent pas la coutume du Dieu.
C'est 27. Le roi d'Assyrie donna ses corps. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité. Qu'ils partent aussi établis et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays.
Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vient s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel.
Verset 29. En fait, chacune de ces nations se fabriqua des statues pour ses propres divinités. Dans chaque ville où ces gens habitaient, ils dirigeaient ses idoles dans des sanctuaires, des hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie.
Les grands de Babylone les hommes de Hamas firent Hashima.
Verset 31. Et les gardiens firent Mitra et Tata. Et les séparés. Et par Jésus, ils voulaient offrir leur fils à Adamélec et à Anamélec, les dieux de ses parents.
Verset 32. Et ils prièrent l'Éternel et ses filles d'ordre toutes les classes du feu, les sacrificateurs des hauts lieux, qui offraient des sacrifices du feu dans les maisons des hauts lieux.
Ah.
Verset 33.
Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait remportés.
Mm-hmm. Voilà. Ah. Ok. Donc, Esdras. On revient à Esdras, chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. Esdras, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5.
Verset 1.
Mm-hmm.
Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temps à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 2. Il vint alors trouver Zorobabel et les chefs des familles pour leur dire : nous voulons monter avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous. Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis le corps où Esa Adon, roi d'Assyrie, nous a fait sortir. Nous a fait monter.
Verset 3. Et Zorobabel et Joshua, et le reste des chefs de terre d'Israël, leur dit : vous n'avez pas à faire avec nous, bâtir une maison avec nous. Mais nous, ceux qui nous bâtirons à l'Éternel de Dieu, on nous l'a commandé, nous l'avons fait.
Mmh. Amen.
Alors le peuple du pays rendit lâche dans les mains du peuple de Juda.
Amen. Verset 5. Ils se voyaient des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius. Tous deux environnent de Perse.
Mm-hmm. Amen.
Amen.
Ces versets nous montrent clairement que il est possible de craindre l'Éternel et de servir d'autres dieux en même temps et d'en être très content. Et le résultat et le fruit, c'est dans Esdras. Quand les ennemis de Juda et de Benjamin viennent proposer de construire avec le peuple de Juda. Et ils donnent la raison. Nous invoquons le même Dieu que vous depuis le temps d'Esa Ardon, roi d'Assyrie. Voyez, ils avaient un précédent. Nous, nous sommes comme vous. Nous avons les mêmes dieux, le même Dieu que vous. Nous avons encore le même Dieu que vous. Et voilà notre histoire. Notre vie de l'Église. Moi, je viens à la vie. Je viens à la vie de l'Église. Je suis dans la vie de l'Église depuis 10 ans. Comme vous. C'est ça. Je viens au rassemblement et j'invoque le nom du Seigneur. Comme vous. J'ai un héritage. Mais le problème, c'est que l'héritage est mélangé. Et on ne sait même pas que c'est mélangé. Donc, voyez, ça c'est l'homme. L'homme qui veut Dieu, il cherche Dieu. Mais selon ses propres moyens, selon pour ses propres besoins. Quand le roi d'Assyrie s'est installé, quand il a déporté, il a fait immigrer, n'est-ce pas, beaucoup de Babyloniens, beaucoup d'Assyriens en Israël, il y a eu un problème. Il y avait des lions, n'est-ce pas, qui commençaient à dévorer les gens. Alors, quoi faire? C'est parce que on ne connaît pas le Dieu du pays. Donc, on a amené un prêtre, hein, juif, pour enseigner le peuple. Et il a enseigné. Il a enseigné. Il a fait son devoir. Mais il n'a pas fait son devoir. Il a enseigné le peuple concernant Dieu, mais il n'a pas coupé, il n'a pas fait une distinction entre Dieu et les faux dieux. Il a laissé, il a permis aux autres choses de coexister avec Dieu. Vous voyez, donc, quand c'est le devoir d'un sacrificateur, d'un prêtre, est de présenter le Seigneur d'une façon nette, d'une façon définitive. Hein? Paul était très net. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui que nous vous annonçons, c'est celui que nous vous annonçons. N'est-ce pas? Dieu, Paul n'a pas joué. Il n'a pas dit, je vous propose le Dieu vivant, le vrai Dieu vivant. Mais en même temps, c'est à vous de décider. C'est à vous de choisir lesquels, quel Dieu vous voulez adorer. Non, c'était clair, c'était net, c'était définitif. Et surtout avec notre deuxième génération. Comment s'occuper d'eux? Voilà le fardeau aujourd'hui. Hein. Donc, apparemment, hein, ok, d'abord je vais vous poser des questions parce que combien d'adolescents est-ce qu'il y a parmi vous? Parce que ça, c'est la première chose à savoir. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez les nommer? Bon, peut-être pas maintenant, mais est-ce que vous les connaissez? Qui sont? Qui sont-ils? Voyez, si nous voulons nous occuper des frères et des sœurs, il faut savoir tous les noms. Alors là, c'est quelque chose de très pratique. Hein. Et surtout ceux qui sont responsables, n'est-ce pas? Avez-vous une liste avec tous les noms, n'est-ce pas, écrits? Vous voyez, on a parlé de ça hier. Dieu est très détaillé. Dieu est très organisé. N'est-ce pas? Nous, on veut suivre Dieu selon l'Esprit. Quand l'Esprit me convient, je vais rendre visite à quelqu'un. Aujourd'hui, je décide de rendre visite à frère Jean. Ah. Mais frère Jean n'est pas chez lui. Alors, je vais chez lui ou je lui téléphone, il n'est pas là. C'est fini. Je fais mon devoir et j'attends que l'esprit, soi-disant l'esprit, me pousse, n'est-ce pas, pour la deuxième visite qui peut-être aura lieu l'année prochaine. Parce que si je ne m'assois pas et je n'organise pas ma journée ou mon horaire, je ne planifie pas, je ne rendrai jamais visite. Si nous n'avons pas une liste, hein, des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui comportent, n'est-ce pas, l'assemblée à Abidjan avec les jeunes et les enfants, on peut parler, on peut donner des messages, comment s'occuper des frères et des sœurs, mais ça n'a rien aucune valeur. Parce que les messages ne servent à rien si nous ne nous